Vous écoutez France Culture.
On est à quelques pas de la maison de la radio. Est-ce que vous pouvez me décrire là où on se trouve ?
Ici, c'est le pays de nulle part, en fait, comme Peter Pan. C'est le lieu où les gens, quand ils sont pas bien, ou quand ils ont besoin de souffle, on est entre deux rives, rive gauche, rive droite, et au milieu, il y a la Seine, il y a l'eau, donc il y a un souffle, il y a du vent, des fois, il y a le pire des vents. Ce qui manque le plus, d'ailleurs, à l'humanité, c'est le souffle. Et c'est là où je fais, depuis 33 ans maintenant, le voyage. C'est un voyage intérieur aussi, d'ailleurs. C'est un voyage en haut des arches de la passerelle. Voilà, je me sens chez moi ici. Et la première fois que je suis venu ici, le commissaire du 16e, ou je ne sais pas exactement quel arrondissement ici, en fait, m'est venu et m'a demandé de descendre. J'étais en haut des arches et je lui ai dit non, ici... C'est mon lieu où j'apprends à voler, où j'apprends le calme, la maîtrise. Et alors là-haut, c'est des sauts de cordes, c'est des sauts de chaînes, c'est des sauts de moutons avec des filles d'ailleurs qui se mettent là-haut. Je saute au-dessus de leur dos.
On croise quel genre de personnes sur la passerelle de Billy ?
Il y a des ombres, il y a des fantômes beaucoup. Beaucoup de fantômes ici. Et j'aime bien parce que c'est furtif, c'est des gens qui passent, qui regardent la scène, qui rêvent ou qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui viennent... régler leurs histoires ici, sur un lieu neutre en fait, parce qu'une passerelle c'est formidable, parce que c'est un lieu entre deux rives, comme j'ai dit tout à l'heure, et le souffle m'apporte ça, l'ultime souffle, m'apporte le calme quand je viens ici, où je fais mes apparitions, comme je dis. Alors j'arrive avec mon fouet là-haut, je fais claquer mon fouet, il y a de la magie ici, c'est un lieu magique ici. En fait, moi, là ici, je suis ni vivant ni mort, là je suis en exil quelque part.
C'est vrai qu'on est en suspension, parce que cette passerelle, elle est un peu... on a quand même l'impression que ça bouge.
Moi, j'ai appelé ça les êtres en suspens. Et on est dans une bulle d'air, ici. Et donc, l'air passe sous le pont, au-dessus. On voit les nuages, on voit la lune, quand la lune est là. On voit les étoiles. Donc, en fait, souvent, quand j'arrive ici, je pique l'électricité de la ville. Je suis un pirate de l'électricité, en fait. Donc, ça va très, très vite. La fusion avec l'électricité, elle passe dans le corps, dans...
Vous avez assez d'électricité en vous pour monter ?
Oui, je vais faire quelque chose là-haut où je serai entre, comme les humains disent, entre la vie et la mort. Mais pour moi, c'est avant tout ni vie ni mort. Je suis entre les deux. Vous allez voir de vos propres yeux.
Qu'est-ce que vous allez faire juste avant de monter ?
Je vais courir, je vais m'élancer, je vais faire un petit peu de corde. Et puis, je vais surtout embrasser ce pont, le toucher avec mes mains.
C'est silencieux ?
Qu'est-ce qui est silencieux ?
Cette préparation.
Oui, elle est silencieuse, elle est profonde, elle est intérieure.
Je veux que tout change.
Cap à la basse.
Il y a des exercices physiques.
Parce que la souffle et la pensée sont liés.
Dont les principaux portent sur la respiration.
Anuloma.
Étant donné que le souffle, le prana, j'emploie le mot sanskrit,
Ujjayi
c'est le souffle qui a créé le monde. Il faut donc être maître de son souffle.
La santé par la respiration.
Messieurs, à vos marques.
Il ne faut pas qu'il tombe. Oh non, il va faire le cochon pendu.
C'est incroyable. How do you say scary?
Thierry Tunyang, est-ce que vous êtes fait l'image de hors humain sur la passerelle de Billy?
Oui, beaucoup. Ça me raconte beaucoup de choses que vient de dire notre invité. Parce que je travaille avec des personnes âgées qui courent pendant presque 40 minutes sur le sas du printemps de Stravinsky et qui voilà, sont pas des professionnels et qui à un moment donné dans leur souffle, dans leur pas, dans leur marche et leur course, voilà, nous racontent, oui, ces fantômes, ces anges, et voilà, ça me raconte beaucoup de choses.
Aline, oui. Ruggieri, vous avez imaginé l'acrobatie de hors humain en l'entendant ?
Oui, 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 tout à fait. Et ce qui m'a intéressée dans ce qu'il a dit, c'est l'idée de la passerelle. Parce que quand on est sur un plateau, c'est une passerelle aussi. C'est un lieu de passage entre, entre la vie réelle et celle qui est aussi réelle sur le plateau, mais qui est quand même différente. Et voilà, c'est aussi un lieu de vie, un lieu entre la vie et ce qui nous attend au bout.
S'ouvre l'atelier intérieur au second souffle. On ne parlera pas du souffle premier, inconscient, mais du second souffle, celui que l'on fait advenir, la respiration choisie contre le vertige et pour la vie. Il faut oublier le cœur pour se connecter aux poumons. L'image de départ ce soir serait celle-là, une ronde de personnes âgées. Elles ont entre 60 et 90 ans, sur scène, dansant sur le Sacre du Printemps. 40 minutes d'une marche, une course, contre le temps. Le Sacre du Printemps va avoir 100 ans. Il appartient au siècle de ceux qui sont aujourd'hui des grands-parents, et pourtant, ils vivent toujours le printemps. Saison violente, avec force et élan. Le temps passe, et on devrait gagner en endurance. Je voulais coller l'image de cette course au souffle de Hors-Humain, debout sur la passerelle de Billy, à Paris, au-dessus de la Seine. « Tu vas voir de tes propres yeux », me disait-il, et j'ai vu. Et finalement, c'est assez rare de voir. Quelqu'un qui vous parle, qui dit « tu vas voir de tes propres yeux » et qui, oui, grimpe sur la passerelle, à main nue, tête à l'envers, au-dessus du vide. Ce n'est pas être fou, c'est aller plus loin, se sentir souverain, pour éviter de dire « aujourd'hui j'ai encore disparu, j'ai peu existé ». C'est un souffle hors du commun, poumon vide, poumon plein. Ce soir, on demande du printemps, et à tout prix, et qu'importe les âges de la vie, la marche continue, sans fatigue, la poitrine a le pouvoir. Ça s'appelle une audace respiratoire, refuser, dire non au souffle court. Pour le second souffle ce soir, voilà ceux qui sont là, hors humain, poète et disons athlète, hors du commun. Et ce que j'ai aimé comme idée, c'était professeur de souffle. Il est descendu de la passerelle de Billy, et lui qui n'est pas fait pour l'intérieur est quand même entré dans notre studio, pieds nus sur la moquette. Pour le souffle sans fin qui se poursuit, Emmanuel Drimael, Aline Ruggieri, ils font partie des seniors qui dansent du printemps sous le regard de Thierry Tionyang qui les accompagne ce soir. Pour le souffle intime, celui que l'on ne fait venir que chez soi, Nicole Saylor et son spectacle en appartement et depuis la rue, Living Room Dancers. Enfin, Amélie Bonin dessine les poumons vides, les poumons pleins, elle dessine l'émission en direct dans le studio. Le chemin ce soir part du haut d'un pont. Pour finir à l'intérieur de vos appartements, le studio sera notre chambre à air. On entame la marche, on commence la ronde, on sacrera le printemps, il n'y aura pas d'essoufflement, on est en direct et ça commence maintenant.
Là, il redescend.
Vous n'êtes presque pas essoufflé en descendant.
Non, parce que moi, comme je dis souvent, je n'ai plus de cœur en fait. Par cet ultime souffle, on arrive à dépasser le cœur, le cardio.
Quand vous êtes tout en haut de la passerelle, vous voyez quoi ?
Je regarde. C'est déjà pas mal. Je regarde le vide. Le vide, c'est le plein pour moi. Et c'est rempli de choses. Le vide, je l'aime profondément. Et j'en ai fait mon territoire du vide.
« Je sors de l'humanité, je tire ma révérence, dit hors humain, mais c'est pour mieux l'explorer. Né sous les bombes en 44, c'est un enfant qui peine à respirer et qui a fondé sa vie sur une maîtrise totale du souffle. C'est son moyen de survie. Et c'est une extase aussi. Résister au pire des vents, escalader la ville, ne pas prendre de risques mais des espaces, dit-il. C'est un homme de pleine lune, qui plonge dans les eaux glacées du pôle Nord, qui respire en hauteur et un peu plus que ce qui est permis, et nous, nous sommes des petits respireurs. Sa marque, c'est comme une griffe. Quatre traits verticaux, un horizontal, une patte d'animal. Hors humain a donc un souffle hors du commun. Il crée des situations et une énergie qui n'existait pas avant. Ne pas être humain permet d'être ailleurs et d'être autre chose. Hors humain, c'est deux H, deux fois plus homme, et hors cadre et hors champ, dans l'air ou dans l'eau. Hors humain, vous êtes né et on vous a coupé le souffle dès la naissance. C'est ça l'histoire ?
C'est une partie de l'histoire en tout cas. C'est vrai que je suis né en Allemagne, dans un camp de travail. Et de là, les bombes pleuvaient à cette époque-là. C'était un camp de femmes et d'enfants. Et dans le camp où j'étais, maman m'a raconté que beaucoup d'enfants sont morts sous les bombes. Moi, en fait, je suis un rescapé, tout simplement. Donc quand on est rescapé et que, en fait, il y a une accusation... En disant, bon, alors, l'Allemagne, si là, je rentre pas là-dedans, je dis simplement que les bombes pleuvaient, tout simplement, et que des enfants sont morts, qu'ils soient allemands, qu'ils soient juifs, qu'ils soient autres. C'était terrifiant. Et donc, ces convulsions respiratoires sont venues de là. C'est-à-dire que je n'avais aucune scolarité. Quand je suis sorti d'Allemagne, impossible d'aller à la maternelle, rien. Donc, en fait, j'allais...
Vous étiez à Lyon ? Vous êtes
arrivé
à Lyon ?
J'étais à Lyon, maman était à Lyon, oui. Et j'allais dans le vieux Lyon. Et de là, j'allais mettre mon petit ventre, parce que j'ai tout fait complètement. Ces convulsions respiratoires ne sont pas de l'asthme. Hein. Les convulsions, c'est terrifiant parce qu'on se voit vraiment mourir. Et en fait, j'allais dans la rue des alchimistes, dans le vieux Lyon, parce qu'il y avait des kabbalistes, des alchimistes et des templiers. Mais ça, je ne le savais pas à mon âge. Et j'allais furtivement mettre mon ventre pour respirer parce que la mort était là, elle était présente. Et c'était un combat permanent, c'est-à-dire de chaque seconde presque, de toutes les minutes ou tous les quarts d'heure, je ne sais pas. En tout cas, ces convulsions étaient terrifiantes et je me cachais à l'époque, il n'y avait pas de digicode dans Lyon. Et j'allais me cacher dans les caves pour mourir en fait. Et ce dernier souffle que j'ai senti terriblement, je ne sais pas, il s'est passé vraiment un miracle, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai poussé sur ce souffle et à chaque fois ça me faisait renaître, ça me faisait revivre. En tout cas, je sentais cette énergie remonter à la surface. Voilà, puis je ne vous parlerai pas des... Beaucoup plus tard, des électrochocs, parce que dans les années 50, on donnait des électrochocs aux enfants. Et ça s'est fait en même temps au milieu des morts, c'est-à-dire à l'Institut médico-légal de Lyon, qui se trouve juste en face de l'hôpital Édouard Herriot. Et ça, par contre, ça m'a beaucoup marqué. Ça a été vraiment un traumatisme, parce que je savais que ma petite cervelle pouvait exploser. Donc là encore, ça a été une survie. Et donc je suis doublement rescapé de cette histoire-là, entre les camps et ces électrochocs. Donc je savais inconsciemment c'était l'homme qui faisait ça. C'était pas les mouches, c'était pas mes chiens, c'était pas les chats que je voyais dans la rue, c'était pas les pigeons. Donc j'ai eu une forme de détournement. Je me suis détourné de l'humanité petit à petit, tout enfant. Et j'ai plus cherché cette force dans la nature, dans les éléments. Et je parlais des alchimistes parce que je mettais mon petit ventre sur les pierres du vieux Lyon. Et je pense qu'ils m'ont parlé et qu'ils m'ont donné ces formules respiratoires qui sont complètement hors normes et uniques et que je démontre soit par mon exploit que j'ai fait dans le Groenland en 84 où d'ailleurs aucun scientifique s'est penché sur mon histoire puisque c'était avec Jacques Sigala, c'était pour des slip-hommes, j'étais mannequin. Mais moi, je faisais pour savoir où j'en étais pour le souffle. Donc, il n'y a plus une question de slip dans cette histoire-là. Il y a vraiment une question de pulmonaire et comment résister à un froid. Mais je n'ai pas résisté en fait. Je suis passé
à travers. Ça, c'était en 84 et c'est donc un plongeon dans l'océan glacé.
Oui, par moins de 2 degrés centigrades.
Et c'est là que vous êtes devenu recordman de choc thermique.
Du choc thermique, oui, puisque personne ne l'avait fait jusque-là, c'est-à-dire replonger de 13 mètres de haut, donc un immeuble de 5 étages, dans une eau à moins 2 degrés centigrades. Et c'est pour ça que je dis que je n'ai plus de cœur, puisque le cœur, je pense qu'il a fondu déjà bien avant. Il a dû fondre déjà près de l'Institut médico-légal où j'étais enfourné là-bas avec mes électrochocs.
On respire comment quand on sort de l'eau glacée qui a moins 2 degrés.
Ben, c'était une petite mort d'ailleurs, parce que j'ai plongé 3 fois pour la publicité, parce qu'ils sont assez inconscients les publicitaires, il faut dire.
En slip.
Donc en slip, oui, toujours à poil, à moitié à poil. Mais ça a été génial parce que Ces trois fois, il y a eu une rage terrible pour la survie, mais la survie, je la connaissais depuis tout gosse, hein, depuis tout enfant. Donc, ce qui m'a permis, en fait, de dépasser ce fameux cardio que les sportifs essayent toujours de cautionner ou d'observer. Moi, non, c'était déjà terminé. Donc, cet ultime souffle passe au-delà de tout ça, au-delà de la mort pour moi. Et donc, c'est un chemin que je connais bien.
Et comment vous le décririez, cet ultime souffle, s'il fallait le dire en quelques phrases?
C'est complexe, c'est compliqué. Cet ultime souffle, c'est le tout dernier souffle que vous pouvez avoir, et le tout, tout, tout dernier, et vous sentez que la mort arrive parce qu'on la voit vraiment. Et à un moment donné, on passe à travers parce que la confiance au vivant est là, et on va faire un ultime rebond, et on va retrouver cette fois-ci pas la vie, mais le vivant. Et après, peut-être, où j'en suis actuellement, ça paraît complètement fou, mais on dépasse même le vivant. On est dans un no man's land entre ni mort ni vivant. C'est ce qui se passe en ce moment pour moi, dans mon psyché et dans ma physiologie. C'est-à-dire que je peux me permettre de faire ce que j'ai envie de faire sur le souffle, et sans aucun problème. Et d'ailleurs, donner ça à des danseurs, donner ça à des enfants, parce que je me bats beaucoup pour les enfants, mais on en parlera plus tard pour la Grèce, où je vais me battre pour les accompagner, leur donner ce souffle avec des cordes à sauter, pas de technique, je n'ai pas de technique, je n'ai que des mouvances de danse sur le souffle. C'est des symphonies respiratoires, en fait.
C'est le souffle qui vous permet de, comme je l'ai vu en effet de mes propres yeux, de monter sur cette passerelle de Billy qui est à plusieurs mètres de hauteur, de faire le poirier, de faire de la corde à sauter, sans aucune attache,
sans aucune sécurité,
rien du tout.
Mais le souffle est une sécurité, puisque ce souffle est dangereux, il faut faire attention, c'est pas n'importe quoi cet ultime souffle. Quand je donne quelques cours très discrets à quelques personnes que je choisis d'ailleurs, en général, c'est... j'en dis, il faut faire très attention, il faut y aller très très doucement, parce que c'est pas du yoga, c'est pas du tai chi, c'est un souffle de survie, mais où j'ai des résultats complètement hallucinants, et des gens peuvent témoigner de cela, mais je ne suis pas non plus un thérapeute, je suis simplement quelqu'un qui dépasse l'entendement quelque part, mais avec une joie extraordinaire, une joie d'enfance en même temps. Il n'y a pas je suis le meilleur, le plus fort, et regardez mes muscles, c'est simplement une joie d'exister peut-être ailleurs. Et peut-être l'humanité, justement, elle manque pour moi de souffle, parce que je ne vois que des enfants, beaucoup d'enfants asthmatiques, beaucoup d'enfants qui ont des problèmes respiratoires, et les adultes, je ne vous parle même pas. C'est assez catastrophique.
Ça permet une extrême lucidité, ce souffle?
Alors ça permet une extrême lucidité, puis de voir l'humanité autrement, différemment. Et tout le monde parle de l'humanité, tout le monde est humain, humain, humain. Et par là, moi, j'ai quitté cette humanité-là, en tout cas, qui me déçoit beaucoup. Et peut-être il y a autre chose ailleurs. Et voilà, c'est mon sentiment profond. Alors que tout le monde parle de l'humanité comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, je pense que ce n'est pas extraordinaire. Je pense que c'est plutôt une terre qui est violée, qui est massacrée, des enfants qui sont atteints de tous les côtés, dans tous les pays. Et moi, je défends l'enfance, mais vraiment en essayant de donner ce souffle, cet ultime souffle. Et je pense que cette humanité n'est absolument pas correcte, en tout cas cette humanité-là. Et je suis vraiment en guerre sur elle.
Thierry Tionyang?
Oui.
Ça vous parle, l'ultime souffle? Est-ce que le souffle, ça a une importance pour le travail avec, par exemple, les seniors que vous avez fait pour du printemps?
Oui, je suis très, très ému, très sensible à ce que vient de dire Aurur même, parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai eu envie de me déplacer dans ma pratique de danseur, de chorégraphe, et de chercher à travers d'autres corps, que ce soit des enfants autistes ou des prisonniers ou cette fois-ci des personnes âgées, et de chercher le mouvement qui était celui de la vie que j'avais envie de vivre, de la vie que j'avais envie de reconnaître, pas simplement sur les plateaux de théâtre, mais aussi autour, dans les jardins, dans les écoles, dans les maisons de retraite. On a beaucoup marché, puisque avec ces groupes de seniors, j'ai eu envie de travailler avec eux sur un mouvement qui va vers l'avant. Que souvent, ces gens-là, on imagine qu'ils sont arrêtés. On imagine qu'entre 60 ans et 90 ans dans ce groupe, les gens sont dans un élan, courent. Suivant leur souffle, alors leur souffle de leur vie, de leur petite vie ou de leur grande vie, de leur petite histoire, qui tout à coup rencontre l'histoire de 100 ans, de Sacre du printemps, saison violente, comme vous l'avez dit, on leur dit souvent, vous êtes à l'automne de votre vie. Moi, j'avais simplement envie de leur dire, vous êtes au printemps.
Emmanuel Drimael, est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné en souffle?
J'ai plutôt l'impression d'avoir mis mon souffle en harmonie avec, avec la musique de Stravinsky, d'abord, avec le souffle des autres membres du groupe. C'est cette espèce de course que l'on fait comme ça pendant 40 minutes. C'est vrai qu'il y a l'idée du souffle, mais donc du rythme, tout ça, pour moi, c'est la même chose. C'est cette espèce d'envahissement de la musique, cette communion avec les autres. Il y a un moment où on n'a plus d'âge, on avance. Et puis avancer, c'est le printemps.
Aline, est-ce que vous avez senti votre souffle augmenter ou alors entrer dans le souffle du groupe?
Oui, entrer dans le groupe du groupe. Moi, je crois que j'ai appris au travers de cette merveilleuse aventure à le réguler, ce souffle. Il était très désordonné. Et là, il coule. Maintenant, il coule. Et il est en effet, comme dit Emmanuel, en harmonie avec les autres. Ça, c'est très important, savoir être attentif à ce qui se passe à côté de soi, savoir accueillir ce qui est proposé dans un souffle commun, oui. Et quelque chose m'a intéressée dans ce que vous disiez, c'est la notion de joie. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ressens profondément, ce rebond qu'a permis cette expérience dans la danse. Moi, je n'ai jamais fait de la danse dans ma vie jusqu'à il y a quelques années. Et ce rebond est possible, et cette joie est possible, et ce printemps permanent, qui est un souffle nouveau, est possible au travers de ça.
Hors humain,
oui.
Vous avez beaucoup observé le souffle des animaux, à
oui.
un moment donné.
Oui.
Pour travailler le vôtre.
Oui. Oui. Je ne sais pas où me tourner quand j'étais môme, mais en fait, j'allais voir les animaux au parc de la Tête d'Or à Lyon. Et je les observais parce qu'en fait, l'animal, lui, je pense qu'il a un très grand esprit, l'animal. Il est vraiment dans le souffle. Il est vraiment, c'est son... C'est sa base numéro un, hein, ses odeurs. Il n'intellectualise pas l'animal, mais il n'est pas sot, il n'est pas stupide, puisque les animaux, quand même, il faut regarder quand même que les humains s'en servent, hein, pour les chiens d'aveugles, d'avalanches, pour les enfants, pour pas mal de choses. Ce sont des guides, hein, les chiens, et puis pas que les chiens, tous les animaux en fait. Sauf qu'ils n'ont plus de place et qu'ils manquent de souffle actuellement, les animaux, parce qu'ils sont véritablement malheureux. Et parce que d'abord, ils n'ont plus de place. Le système humain en place, lui, il prend tout. Il prend tous ses territoires. Je pense que j'écoutais Madame Ruggieri, c'est ça ?
Mm-hmm.
Oui. Et ces personnes qui parlent de ces danseurs. Moi, je sais qu'en tout cas, ce souffle, c'est une symphonie respiratoire. Il y a un rythme, il y a des arythmies. Et en même temps, c'est joyeux. C'est vraiment joyeux. Ça égaye l'âme. Et ça donne une vision incroyable de la Terre, du respect de la Terre, du respect des autres, du non-racisme, et d'avoir un amour inconsidéré du vivant et de ce qu'on ne voit pas, en fait. Parce que le souffle, on ne le voit pas, on ne peut que le ressentir. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et si l'humanité avait cette notion vraiment de souffle et d'être joyeux, je crois que ce ne serait pas le bordel comme c'est actuellement. Ce ne serait pas la misère pour les mômes et la défenestration de la Terre comme elle est actuellement.
Ça se transmet, le souffle ?
Oui, oui, absolument. Mais je pense que déjà, cette équipe-là, enfin, j'entends des choses sur ces danses de gens d'un certain âge, c'est vraiment le rajeunissement, quoi. C'est vrai qu'ils sont dans un intemporel en même temps, parce que le souffle est intemporel, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans le chronos, où on est en train de crever de ça, d'ailleurs, dans l'accélération de ce monde. Il est dans une justesse, il est impeccable. Et puis surtout, il nourrit l'esprit. Pas que le corps, mais l'esprit. Mais le corps fait partie aussi de l'esprit. Donc la danse, c'est le corps, l'esprit. Et le souffle, c'est une ronde énergétique et plus que ça, et beaucoup plus que ça. Parce qu'on parle toujours d'énergie, mais au-delà de l'énergie, le souffle agit sur l'âme et sur l'esprit et donne ce recours aux forêts, je dirais. Comme disait Hans Junger, que j'aime beaucoup. ce recours aux forêts, hein, c'est ce côté de liberté et non... On vit dans... En fait, l'humanité, c'est... Dans le livre que je prépare, j'explique que c'est une communauté, la communauté humaine, mais chacun a sa petite communauté et chacun se fait la guerre, même à l'intérieur de sa communauté. Et je pense que le massacre vient de là, de chacun dans son petit... enfermé dans son petit... dans son espace. Alors que le souffle, lui, c'est un espace qui est démesuré, où il n'y a aucune barrière, aucune règle, et je dirais presque à la limite, aucune loi. Parce que le souffle n'a pas de loi. Il est presque, je dirais même, anti-loi. Mais il amène le respect des choses et des êtres vivants.
Est-ce que le souffle peut faire qu'on a plus peur de la vieillesse ?
Absolument. Écoutez, moi j'ai bientôt 69 ans, mais je suis fou de joie, comme un môme. Mon corps respire, mes doigts respirent, mon sexe respire, tout respire. Je veux dire, mes cheveux respirent. Je suis en harmonie autant avec les animaux qu'avec les araignées, qu'avec le pont que vous avez vu. J'ai embrassé le pont, j'ai touché le pont, c'est du fer, mais le fer est mon compagnon de route aussi.
Jusqu'à quel âge vous allez monter sur la passerelle de billets ?
Mais je suis hors temps, donc les humains comptent leur âge. Moi, je compte rien du tout. Je pense que cette équipe de gens, de seniors peut-être, ils ne comptent pas leur temps. Ils sont dans la danse, ils bougent, ils transpirent, ils sont joyeux. Il y a vraiment une harmonie extraordinaire dans tout ça. Il y a pas le vieillissement, en fait, n'existe pas. C'est tous les gens autour de vous, alors quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais, ouais, mais machin. L'homme, il a mis des barrières constamment, des choses, des fermetures en fait. Il n'est que dans la fermeture. L'humanité, d'ailleurs, est actuellement dans une fermeture catastrophique. Je pense que si l'humanité travaillait son souffle, je reviendrais peut-être dans l'humanité, mais ce n'est pas le cas, donc je reviens pas. Je garde ma solitude avec les gens qui se transforment, qui se bouleversent. Moi, quelqu'un qui se bouleverse déjà, qui fait des choses comme cette équipe que j'entends là, avec ses danses, le Sacre du Printemps. Moi, j'ai eu la chance de voir le Sacre du Printemps par Béjart. Mais j'ai pleuré, j'avais les larmes qui coulaient, parce que c'était d'une beauté exceptionnelle. Et Georges Donne, il y avait tous ces danseurs hors du commun qui faisaient des sauts extraordinaires. Non, tout ça m'émeut, me fascine. Et alors que maintenant, on voit que la guerre, que le racisme qui revient, que la folie des humains. Donc, je quitte cette humanité avec une joie extraordinaire, au même titre que j'aime le souffle. Donc, j'aime bien entendre ce que j'entends ce soir.
Come stai, Alberto? Va bene.
Good evening, Dalida. How are you tonight? J'ai
oui.
une question très importante
à
te poser ce soir.
Écoute, un moment, c'est moi qui pose les questions.
Ah non, hein. Mais celle-ci prime tout. Je voudrais savoir très vite si tu es
bon,
chevalière.
Bon, seulement. Hein.
Est-ce que tu es chevalière?
Chevalière, eh bien oui. Non.
Non, bon.
Non, mais de quoi
veux-tu
il s'agit?
Devenir chevalière? Je vais te faire sacrer chevalière.
Mais je voudrais bien savoir de quoi il s'agit quand
oui.
même.
Eh bien voilà, j'ai créé... Tu sais qu'il y a les chevaliers du Tastevin, il y a les chevaliers de Malte.
Oui.
Eh bien moi, j'ai créé l'ordre des chevaliers du souffle.
Du souffle?
Oui, alors tous ceux qui ont du souffle. Alors j'ai un souffleur de la Comédie Française.
Ça c'est bon.
J'ai Louis Armstrong. J'ai
oui.
le commandant Cousteau. J'ai André Luguet, parce qu'il a fait une carrière avec beaucoup
oh,
de souffle.
Oui.
Et j'ai besoin d'une chanteuse qui ait du souffle. J'ai pensé Dalida, c'est
ce qu'il
me faut.
Tu crois que moi j'ai du souffle?
Mais j'en suis persuadée.
Eh
alors
bien,
d'accord.
Écoute, je vais essayer et puis peut-être je deviendrai chevalière alors comme tu dis.
Alors, mais de toute façon, nous te nommons chevalière.
Ah bon,
alors...
de toute façon, même
oui,
si
oui,
je n'ai
oui,
pas
oui.
de souffle.
Ah mais tu as fait tes preuves.
Ah
enfin, c'est
ah,
en considération de tes preuves que nous te nommons chevalière et membre d'honneur du club des chevaliers du souffle.
Eh bien alors voilà, me voilà chevalière.
Je rappelle le règlement pour ceux qui ne le connaissent pas. Le coureur essaie de parcourir le périmètre de la cour en partant et en arrivant à un point fixé sous l'horloge dans le temps qu'il lui faut pour sonner les 12 coups de midi.
Moi, mon temps, je fais une 8:56, ce qui est un temps assez normal. Bon, vu que je suis champion de France, donc ça va, c'est un temps assez bon.
La course va commencer au premier coup. Le coureur doit atteindre l'arrivée avant le 12e coup.
Et au niveau du souffle, il faut essayer de pas trop s'emballer, c'est-à-dire respirer trop vite pour éviter de s'essouffler trop vite.
Or humain, finalement, vous ne faites que suivre la route de Dalida. Vous êtes un chevalier du souffle.
Mais alors, d'abord une chose, j'adore Dalida. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je me rappelle, j'étais môme, j'étais sur les quais de la Saône. Et j'entendais Bambino à l'époque, j'avais 13 ans, 14 ans. Et c'est une femme que j'aime profondément parce que s'il y en a une qui a du souffle, c'est bien elle. Dans l'amour, dans ses abandons aussi, dans sa difficulté de vivre. Je m'entraîne beaucoup à Montmartre, donc je suis près d'elle. Hein. Je vois son fantôme souvent, parce que je monte les marches d'escalier du Sacré-Cœur en corde à sauter, les yeux bandés, et je les redescends, j'ai fait tout comme ça. Et je pense souvent à elle, et je lui envoie du souffle, parce que les disparus, pour moi, ceux que j'aime, ils sont présents. Et c'est vrai que Dalida, si on parle de Dalida, je pourrais en parler pendant des heures, parce que j'aime ses chansons, j'aime la personne, j'aime la danseuse, la chorégraphe. Et c'est une femme qui était dans l'au-delà, qui était ailleurs. Et je souffle pour elle ce soir.
Aline et Emmanuel, on pourrait dire que vous avez fait vos preuves, vous êtes les nouveaux chevaliers du souffle. Aussi, on vous voit dans Du Printemps, c'est donc le Sacre, dansé par 25 seniors amateurs. Ils ont entre 60 et presque 90 ans. Ils sont venus de Marseille, de Valence, Odette, Janine, Daniel, Josette, André, Lucienne. Et ce soir avec nous, Emmanuel Drimael et Aline Ruggieri. Thierry Thionyang leur a un jour demandé « Vous ne voudriez pas danser ?» Ils ont dit le printemps, le sacre, et c'est devenu un cercle et un groupe qui se voit aussi vieillir, puisque cela fait 7 ans qu'ils se voient. C'est le corps au présent qui, quel que soit son nombre de printemps, est en avance sur son temps. On se dit combien de temps cela peut tenir, combien de temps la danse peut durer. Un marathonien commence une course sans fin, et alors il n'y a plus d'âge. C'est une respiration commune, comme on le disait, une ronde de 40 minutes. Le second souffle, le temps passe, mais on voit le temps qui reste. L'énergie que peut réinventer un corps âgé. Aline, comment vous êtes rencontrée avec Thierry Thionyang? Vous avez répondu vous aussi à une petite annonce?
Oui. Et oui, ça s'est fait comme ça. Et puis.
Pourquoi vous avez répondu à cette annonce? Qui invitait donc à une rencontre?
Oui, j'ai invité. Je cherchais un projet qui puisse. Voilà, questionner ce qu'on disait, pas le souffle, mais les souffles, les corps dans leur mouvement. Peut-être que j'avais aussi, à un moment donné, envie de sortir des familles, comme on disait, des familles, des cadres. J'avais l'impression, à un moment donné, d'être dans une consanguinité totale avec d'autres danseurs, avec le monde de la danse, et j'étais pas très bien, et je me suis dit que j'avais besoin de... Voilà, j'ai mis une petite annonce et j'ai demandé de rencontrer des personnes âgées qui voulaient me parler du temps qui passe, du temps du corps. Et maintenant, depuis 7 ans, à raison de 3 jours par mois, je descends à Marseille et à Valence et les deux équipes se réunissent, travaillent ensemble. Et on improvise, on cherche, on travaille avec des enfants, on travaille avec des musiciens, on travaille sur différentes musiques. On est passé évidemment aussi par Dalida, tous ensemble. On est passé par l'histoire de l'art et j'avais envie de confronter avec leur histoire, l'histoire de l'art, la grande histoire et quelles étaient les œuvres qui pouvaient les toucher. On a eu le Boléro de Ravel, on a eu Pierrot le Fou, on a eu la danse chez Matisse, donc de la peinture à la sculpture, au cinéma et puis Pina Bausch est morte. Et on avait vu Contact Off qu'elle avait repris avec des danseurs de plus de 65 ans et ça les avait bouleversés. Du coup, on a regardé le Sacre du Printemps de Pina Bausch et j'aurais dit voilà, on travaille sur cette musique. Cette musique dure 40 minutes. Je veux que personne ne sorte du studio et éprouver cette musique. Un des seniors, Daniel, 67 ans, ses deux passions, c'est courir et danser depuis qu'il est à la retraite. Il s'est mis à courir et puis dans son sillage, il a entraîné tous les autres et je me suis mis à pleurer et je me suis dit, mais ça y est, c'est ça. C'est, la forme est arrivée et on a travaillé et puis on a construit, on a écouté. Voilà, c'est une vraie chorégraphie avec des vrais instants, une vraie lumière et voilà.
Et voilà. Emmanuel, vous avez découvert quoi de votre corps? Des possibilités qu'il avait?
Des capacités de résistance que je n'avais pas... Enfin, mon corps, je n'avais pas mis à l'épreuve de cette façon-là, j'ai l'impression, depuis très longtemps. Bon, je l'ai entretenu, bon, comme tout le monde, à mon âge, bon, en faisant de la randonnée. Bon, la danse, j'ai toujours pratiqué d'une façon ou d'une autre, mais rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et donc là, depuis que j'ai rencontré Thierry, mais je ne ressens pas ça du tout comme un travail sur le corps, parce que c'est un travail global en fait. Ça passe par tellement de choses. Thierry agit par petites touches de tous les côtés. C'est un excellent manipulateur en fait, il n'y a plus qu'à se laisser faire.
Aline, vous dansez pour qui quand vous dansez? Pour vous? Pour ceux qui vous regardent?
Non, je crois que je danse pour moi. Je danse pour moi. Moi, ce que ça m'a permis de faire par rapport à mon corps, c'est de l'occuper, de faire corps avec lui, d'être ma locataire à temps plein. Voilà, et puis...
Est-ce que c'était pas le cas?
Non, c'était pas le cas. Et puis, ça me permet d'accueillir ce corps vieillissant en toute sérénité. Et ça, c'est un grand bonheur. Un grand bonheur. Cette danse, tout à l'heure, vous parliez du temps, du temps qui nous coince, qui nous presse, ce temps compétition. Je voudrais faire remarquer ici que Chronos, notre marathonien dont Thierry parlait tout à l'heure, court à l'inverse des aiguilles d'une montre. C'est le temps de la planète, c'est pas le temps humain. Et ça, je trouve ça très fort et très important. Ne serait-ce peut-être que pour mieux communiquer avec cette humanité qui est en souffrance, c'est sûr. Mais moi, je suis optimiste. Donc, je sais que le racisme, les enfants qui souffrent, ça existe. Mais je fais quand même confiance à l'humanité.
Est-ce que ça a changé le fait de danser et de participer à cette ronde, cette marche, la relation avec vos éventuels enfants ou petits-enfants?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, le regard de mes petits-enfants qui vont de 25 à 6 ans a totalement changé sur cette grand-mère qui danse et qu'on vient voir et qu'on découvre, qu'on redécouvre, qu'on voit autrement et qui est tellement, je crois qu'elle est tellement jeune et tellement vivante.
Un des petits-enfants d'une des participantes est allé voir ce spectacle et puis il est allé voir sa grand-mère, il a dit qu'il n'avait pas vu comme une grand-mère, mais comme une femme qui danse. Donc ça raconte aussi énormément de choses sur le regard qu'on porte à un moment donné sur ces personnes qu'on voit tout à coup comme des grand-mères et puis comme des grands-pères. Et puis tout à coup, on les voit comme une femme, comme un homme.
Emmanuel ?
Il y a quelques jours, ma fille, j'avais parlé de ce projet. Tout d'un coup, elle a réalisé ce que ça voulait dire. Elle était à Genève avec son copain. Elle a pris l'avion. Ils sont venus me voir. Ils sont partis le lendemain parce qu'ils avaient autre chose à faire. Et voilà, enfin, c'était très, très fort. Mon papa. Bon, elle a 47 ans. Et voilà, c'était retrouver quelque chose avec son enfant merveilleux.
Est-ce qu'il y a une fatigue qui vient, Aline ? Petit à petit ?
Pas du tout. Pas du tout. Il y a une énergie qui vient, un souffle sans doute. Un souffle qui vient et la fatigue, là, je crois que je ne sais plus ce que c'est. La fatigue, je pense que c'est dans la tête. là, elle n'existe pas. Et je ne suis pas la seule, je veux dire. Hein, je parle avec les autres et c'est général, on n'est pas fatigué. Et puis, s'il y a un petit bobo ici ou là, à partir du moment où on a mis le pied sur le plateau, ça n'existe plus.
Emmanuel, vous êtes dans quel état à la fin des 40 minutes?
Ah, je suis...
Soulagé?
Non, pas du tout. Au contraire, j'ai un trop plein d'énergie. Mais justement, c'est là qu'il faut faire attention, je crois. Bon, je m'aperçois quand même que mes tendons, que les chevilles ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore 10 ans. Donc, bon, il faut faire attention, mais bon, il n'y a pas de problème physiquement. Et puis, ce que je ressens très très fort, c'est cette montée d'énergie et tout ce que...
Il y a une euphorie, à un moment donné?
Oui. Mais une euphorie... Enfin, pour moi, une euphorie partagée. C'est vrai que quand on finit, j'ai envie de prendre les autres dans mes bras, de les toucher. Et voilà, pour moi, ce n'est pas quelque chose de solitaire, c'est vraiment quelque chose que je fais en groupe, que je partage. Et ça, c'est un bonheur.
Vous parlez de toucher les autres. Et justement, la place des mains qui est très belle dans cette pièce, parce que c'est... C'est aussi où est-ce qu'on place ses mains, comment on tient son corps, comment on la pose peut-être sur le corps de l'autre pour l'aider à avancer. Il y a une chorégraphie des mains qui est presque invisible, mais qui est très, très, très belle.
J'ai voulu travailler avec eux sur les gestes qui font du bien. Quand à un moment donné, on est justement dans le mouvement, quand on est dans la marche, longtemps, dans la course... Donc, à un moment donné, on touche son sternum près de son cœur, justement, pour sentir le battement, mais aussi les souffles qu'on peut avoir, les apnées, les longues respirations, les choses courtes. Il y a des mains sur la tête aussi, pour juste relâcher les épaules, des mains aux hanches, avec les doigts derrière dans le bas du dos, pour sentir le bas du dos. Et c'est vrai, ces gestes-là circulent dans le groupe et à un moment donné inscrivent un dessin, une chorégraphie. Et puis il y a ce très beau geste, à un moment donné, c'est de venir poser sa main dans le dos de l'autre et pas de le pousser, pas de l'accompagner, mais de se recharger. Voilà. Et puis un geste où on court avec les bras grands ouverts C'est les seuls gestes qu'il y a dans cette chorégraphie.
Nicole Saylor, vous avez aussi cherché à travailler en tant que chorégraphe avec des corps différents, enfin des non-experts en tout cas, des amateurs. Qu'est-ce que ça vous apporte comme à vous?
En fait, pour moi, c'est... Enfin, j'entends très bien ce que tu disais, Thierry. Par rapport aux amateurs et ces corps non professionnels, justement, ils sont plus réels, plus vrais, ils sont pas... dans la danse professionnelle, on travaille tellement qu'en fin de compte, on est lisse, on est super lisse. Alors que les non professionnels, vous disiez les non experts, pour moi, c'est plutôt eux les vrais experts, en fait. Il y a une vérité, il y a quelque chose d'essentiel. Et pour moi, en tant que chorégraphe travaillant dans la danse professionnelle, ça m'a permis à me reconnecter à cette joie de danser tout simplement. Quand j'avais 16 ans, je sortais en boîte et que je ne voyais pas le temps passer. En fait, ça, je retrouvais. Et ouais, quand on en fait son métier, c'est pas moins bien, mais ça se transforme. C'est un peu comme une histoire d'amour Avec les années, ça se transforme. La passion se perd un peu. C'est encore une fois pas moins bien, mais c'est différent. Et là, j'ai retrouvé en fait cette passion-là. C'est cette chose qui est très essentielle à la danse.
Alors, dans le tango argentin, j'ai trouvé quand même un petit peu un gant qui me va bien. Parce que c'est un rythme que j'arrive à assumer. Même 1h30, 2h, j'arrive à danser. Et en plus, c'est élégant, c'est fin. Donc voilà, je fais un bon choix, je trouve.
Le problème de trouver une partenaire pour la danse, c'est le même problème ou les mêmes difficultés que trouver un partenaire pour la vie.
Je m'arrêterai jamais. Plutôt que me le permettre maintenant, j'arrêterai jamais. En EMS, je continuerai peut-être même avec mes barres, je sais pas. Je mettrai des barres dans les EMS et puis j'en serai autour. Des fois de canne.
Moi, je dirais que je ne peux plus vivre sans la danse. Si vous m'enlevez la danse, c'est fini. Je suis vraiment dans le truc, j'oublie tout ce qui se passe à côté. Enfin, je dirais pas que c'est semblable à un orgasme, mais c'est vrai que... Il y a certaines chansons, c'est assez... c'est assez fort, comme ça.
Si vous allumiez la lumière, si vous vous mettiez près de la fenêtre, à danser. C'est ce que Nicole Seiler a dit à certains passionnés de danse. Nicole Seiler, de Zurich, installée à Lausanne, voulait devenir paysanne, puis funambule, et a finalement choisi chorégraphe, mais cherche avant tout la vie. Elle passe une petite annonce, elle aussi, à la recherche de danseurs amateurs, elle les invite à danser chez eux, et c'est ça le spectacle. Pour aller observer, on reçoit un plan, des jumelles, et un lecteur de musique pour avoir la musique que eux écoutent dans les oreilles. Ce sont des situations intimes, elles nous offrent le mouvement et le hors-champ. On peut imaginer, c'est de la salsa, du tango, de la samba, des claquettes. Nicole Seiler, je vous ai proposé tout à l'heure au début de l'émission de s'approcher de la fenêtre parce qu'on a la chance d'avoir un studio avec vue.
Oui, une vue incroyable.
Avec une fenêtre. Donc on va se lever, vous m'accompagnez à la fenêtre. Qui veut, vient évidemment. Je voulais qu'on décrive juste un petit peu la vue qu'on avait de notre studio à la Maison de la Radio.
Alors là déjà on est au 10e étage et puis on est à plein centre de Paris. Il y a, la première chose que je vois c'est la tour Eiffel éclairée, mais autour de moi de nombreux immeubles avec des milliers de fenêtres. Certaines avec la lumière allumée, d'autres sombres, tout noirs, des fenêtres avec des stores baissés, des cages d'escalier. Voilà, la vie continue.
On aperçoit un appartement en face éclairé, mais personne ne danse.
Bah, peut-être ils dansent à côté et nous on voit pas.
Comment vous choisissez les appartements? Comment vous les repérez dans la ville?
Alors on a fait un repérage, évidemment la visibilité c'est un peu la chose la plus importante. Ensuite on a contacté, par lettres. En fait on a mis des lettres dans des boîtes à lettres des immeubles en question qui nous intéressaient en disant que en gros votre fenêtre serait parfaite pour ce projet. Est-ce que vous aimeriez participer et accueillir un danseur chez vous? Donc en fait on fait semblant que les danseurs dansent chez eux. Et c'est toujours très étonnant parce qu'on y croit vraiment. Quand on regarde de dehors, on pénètre dans cette intimité et on vole vraiment un instant de vie de ces gens-là.
Pourquoi avoir choisi ce point de vue-là? C'est-à-dire nous dans la rue qui nous promenons avec des jumelles, avec un plan, avec un lecteur pour entendre la musique des appartements. Et c'est évidemment une position de voyeur, mais il y a aussi celle des danseurs qui est d'avoir conscience d'être dans le champ parfois et de se montrer, de montrer cette intimité.
En fait, je me suis rendu compte que... Parce que le point de départ, c'était je voulais travailler justement avec des non-professionnels. Et je voulais me questionner sur qui ils étaient. Ces personnes et pas ces danseurs. Vraiment les personnes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en les mettant dans des appartements, en fait, je crée de l'intimité. Alors que sur scène, il y a quelque chose qui les expose beaucoup plus. Je ne sais pas comment vous vivez ça sur la scène. Moi, j'avais besoin de cette distance, en fait, pour créer l'intimité. Et pour parler de ces personnes-là en tant que personnes.
C'était une parole documentaire que vous cherchiez? Quelque chose de plus que la fiction de la scène?
Oui, tout à fait. Ça faisait partie du point de départ, vouloir faire du documentaire et voilà, et sortir du cadre de la danse contemporaine professionnelle.
Dans le spectacle, il y a cette balade dans la ville et puis il y a évidemment cette envie de les connaître et de rentrer un peu plus dans l'intimité. Et quand on revient, on peut voir un film justement plus documentaire sur leur vie. C'était important, ça, cette partie-là, de qui les approche un peu plus.
Oui, ça m'importe beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir le spectacle qui me demandent, ah, le film, est-ce qu'il faut vraiment le voir? Et moi, à chaque fois, je dis oui, parce que pour moi, la déambulation, c'est marrant, c'est une espèce de chasse au trésor, c'est rigolo, mais on ressent une intimité, mais il manque quand même, il manque un niveau. Et dans le film, et en écoutant, tout à l'heure, on entendait quelques extraits de ce film, on a ce complément, en fait. On a ce niveau en plus qui va plus en profondeur.
Thierry Tionyang, on va peut-être rejoindre la table et rejoindre les autres et laisser la fenêtre et les appartements en face du studio tranquille. Est-ce que vous avez, en 7 ans, ça fait 7 ans que vous vous connaissez maintenant avec ce groupe de seniors, vous avez fait un travail sur leur parcours de vie aussi, à un moment donné, sur les dates clés de leur vie? En quoi c'est quoi cette étape de connaissance entre vous et de retour sur le passé de chacun? En quoi c'est important?
Par exemple, quand on est arrivé ici dans le taxi, c'est la première fois que j'ai demandé à Emmanuel c'était quoi ton métier. Et voilà, donc il y a des gens qui me racontent, il y a des choses qui se font, voilà. Moi, je ne cherche pas. Les choses, elles arrivent et elles arrivent dans le travail, que ce soit par le biais d'une chanson, par le biais d'un exercice tout à coup ou après, les gens se parlent. Sociologiquement, ça va vraiment de la fleuriste au psychanalyste. Enfin, il y a vraiment, sociologiquement, des gens ont traversé des expériences de vie et professionnelles et de professions très, très, très différentes.
Il y a un peu plus de femmes que d'hommes, non ?
Il y a plus de femmes que d'hommes, sauf que là, je continue un atelier et j'ai de plus en plus d'hommes qui arrivent, qui arrivent à ce projet, qui arrivent à cette question du corps dansant.
Qui ont mis plus de temps à y arriver ?
Je ne sais pas, c'est encore une question de société, de tiroir, de cadre, qui fait qu'à un moment donné, les hommes... après, il y a une chose aussi où les femmes vivent plus longtemps. Donc aussi, c'était des femmes aussi seules qui sont venues aussi pour traverser une expérience. Mais on se voit 3 jours par mois. On va au théâtre un soir et l'autre soir, on mange ensemble, on fait la fête. Et ça fait aussi partie de ce travail. Ce que j'ai envie de retenir, c'est que dans tout ce qu'on s'est dit là, c'est que oui, le souffle, c'est la joie et la joie, c'est le souffle.
Nicole Saylor, une des premières fois que vous avez fait le spectacle à Lausanne, donc dans les rues pour les spectateurs, c'était sous une tempête de neige.
Oui, c'était à la première. Je me souviens très bien, ils avaient annoncé de la neige. Et puis évidemment, pour nous, ça nous faisait peur. On se dit, oh non, les pauvres spectateurs, ils vont se trouver dehors. On a envie de prendre soin du spectateur. On est allé acheter des gants, des parapluies, des pèlerines. Et c'était très joli parce qu'ils étaient tous sous les pèlerines, dans la neige, avec des jumelles dans la main, en train de regarder vers le chaud des appartements. En fait, c'était parfait.
Comme ça, on pouvait voir le souffle, puisque quand il fait froid, il se matérialise par une petite fumée.
Oui, tout à fait.
Ouais. C'était le souffle du spectateur, c'était encore plus fort.
Oui.
Hors humain, on parle de voyage et de déambulation. Vous allez partir en Grèce bientôt?
Moi, je fais les Olympiades de l'ultime souffle, c'est-à-dire que je vais dans les stades antiques, d'autres qui vont être fermés, je vais les ouvrir à ma façon, et je vais m'entraîner, donc je vais tirer à l'arc, je vais courir, je vais faire des sauts de corde, descendre les gradins, faire du souffle dans ce lieu magique accompagné par mes disparus, par cette armée fantôme qui est comme ça, qui est là, et que j'ai envie de voir les portes, et puis surtout faire travailler les enfants sur l'Agora, là-bas à Athènes, et leur donner du souffle avec des cordes à sauter, et les faire travailler dans des bulles d'air comme ça, et leur apporter cette énergie au moment où l'humanité bien pensante et a tourné le dos à la Grèce. Donc on a quand même des choses à dire sur la Grèce quand même. Ils nous ont apporté des philosophes, des poètes, et puis leur dieu, leur héros que j'aime beaucoup. Et en fait, je vais réanimer tout ça, je vais leur dire la sieste est terminée, il faut vous lever, et puis il faut faire quelque chose quoi, dans ce monde humain, parce que c'est une catastrophe. Donc je comprends ce qu'on vient de me dire et ce que j'ai entendu pour ces gens d'un certain âge et pas d'âge du tout d'ailleurs qui dansent, et je trouve ça sublime et vraiment, je suis vraiment dans ce sacre du printemps. Ce que j'ai entendu m'a beaucoup ému et touché. Par contre, on vit chacun dans notre bulle, enfermé dedans, et on dit, tiens, bon, bah, l'humanité, elle va s'en sortir. Pour moi, je suis extrêmement pessimiste, mais très joyeux. En fait, je suis un pessimiste joyeux et éclairé. Et je dis souvent, je préfère être un optimiste joyeux et éclairé qu'un optimiste criminel.
Est-ce voilà. qu'on peut finir sur, avec un poème
oui,
de
sûr.
Vous, hors humain
mmh, avec plaisir.
Je vous laisse le lire.
Oui, merci. Je suis né en gueule du dragon céleste, sous des pluies de bombes incendiaires, le 13 janvier de l'an 13, Allemagne, 1944, dans les ruines fumantes d'une Europe trahie. Oserais-je dire qu'après des métamorphoses successives, je suis devenu hors humain par excellence. Comme l'on quitte un ami cher, très cher, une famille, un amour d'enfance, j'ai quitté l'humanité si complaisante à ses douleurs, à son histoire, qui n'en finit pas d'accomplir ses révolutions. Les siècles se suivent et se ressemblent. Lassitude d'un temps qui ne passe pas et ne passera jamais. Alors, en désespoir de trop de causes, au sommet d'un coquelicot, j'ai pendu ma peau humaine au vestiaire des souvenirs et me suis tissé de matière informelle dans la froideur serpentine des labyrinthes. Oh, tout ce que je vais dire n'est pas à dire, tout ce que je vais faire n'est pas à faire. Aimerez-vous encore la liberté des mots qui cherchent à s'enfuir du temps, de l'espace carcéral temps, la liberté des tempêtes outrancières qui lavent les plaies d'une terre souillée, de ces monstres oubliés qui pleurent leur richesse perdue et vagabondent, sans demander l'aumône, sans demander pardon, sans baisser la tête, sans poser genou à terre, ni même tendre la main sur vos parterres de cœurs usés. Tout ce que je vais dire va se retourner contre vous, humains. En voici la preuve. Vous avez bien dit, tous, vous avez bien dit crime contre l'humanité. Vous avez bien tous dit crime contre l'humanité, n'est-ce pas? Mais dites-moi, l'humanité sans crime, serait-ce l'humanité? Dans cette traîtrise civilisée, dans cette civilisation traître, servile, délatrice au summum de l'hypocrisie, Attila, oh Attila, était un cœur d'enfant. Et avant mon ombre, avant tout cela, que faisais-tu? Hein? Que faisais-tu? Je m'appelais Espérance. Espérance. Espérance.
À l'intérieur de l'atelier intérieur, il y avait Alice Ramon à la préparation, Delphine Lemaire à la réalisation, à la technique, Anthony Thomasson et Pascal Bénard. Rendez-vous pour la 4e saison de l'atelier intérieur et des ateliers de la nuit, lundi soir 1er septembre à 23h. En attendant, vous entrez dans les nuits de France Culture.
I'm Houston.